Jésus, le Fils de Dieu. Frères et sœurs, amis en la parole de Dieu, cet enseignement assez long est pour tous les croyants qui désirent recevoir la vie éternelle, car ils doivent connaître le chemin incontournable. Recevez cette grâce de la vérité. Jésus, le Fils de Dieu. Mais avant de parler de Jésus, parlons d'abord de son Père. Luc 1, versets 31 à 35. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans les passages suivants, il y a deux passages qui doivent attirer notre attention. Prenons Luc 1, versets 34 à 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie était vierge. Elle n'a jamais connu un homme. Elle était seulement fiancée à Joseph, un descendant de la maison de David. Marie était aussi descendante de la maison de David par Nathan. Joseph était un homme pieux qui craignait l'Éternel. Matthieu 1. Versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus, qui est né par la puissance de Dieu, portait en lui le germe de la sainteté de Dieu par son Esprit Saint. Car Marie a été couverte par la puissance de l'Esprit de Dieu. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mais de même, Jésus portait aussi en lui, par sa mère Marie, descendante d'Adam, un germe humain. Cela veut dire que sa mère n'était pas sainte. Elle a, par sa conduite et son comportement, trouvé grâce. Luc 1, verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Car dans son arbre généalogique, Marie descendait bien d'Adam et Ève, les pécheurs. Marie était la postérité de David par Nathan. Luc 3, verset 31. Fils de Mélia, fils de Mema, fils de Mattata, fils de Nathan, fils de David. On dit souvent la Sainte Marie, mais Dieu, en annonçant la naissance de son fils, il n'a pas dit qu'il naîtra d'une sainte, mais d'une vierge. Ce qui veut dire une jeune femme qui n'a pas connu un homme. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Être vierge ne veut pas dire être sainte. Sinon, toutes les filles vierges sont des saintes. Une fois que Jésus est né, Marie a pris sa vie de femme avec son mari Joseph. Ils eurent d'autres enfants nés de leur union. Marie, la mère de Jésus, femme de Joseph, est comme toutes les femmes descendantes d'Adam, nées avec le péché d'Adam et Ève. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus, par sa mère, a porté nos péchés en lui. Mais lui-même, Jésus n'a pas péché. Malgré cette personnalité pécheresse que Jésus portait par sa mère, Jésus s'en éloignait pour s'attacher qu'à la personnalité de son Père. Les Écritures nous confirment cela. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus avait fait un bon choix dès l'âge atteint de la raison. Il a choisi de vivre la vie de son Père. Il s'éloignait de plus en plus de la personnalité de sa mère, qui est une personnalité d'Adam. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Ce n'est pas que Marie était le mal, mais tous les descendants d'Adam portent en eux la personnalité d'Adam, une personnalité de pécheur. C'est pour cela que Jésus disait, Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, versets 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Pour confirmer cet éloignement entre Jésus et sa mère, voici quelques passages des Écritures saintes qui montrent que Jésus s'attache de plus en plus à son Père. Luc 2, versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui est mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Jean 2, versets 3 et 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans ces passages, le comportement de Jésus montrait très bien et clairement le rejet de la personnalité de l'humain fils d'Adam qui était en lui par sa mère. Ce n'est pas Marie comme telle, mais Marie représentait dans la vie de Jésus la partie que Dieu a condamnée à mourir, qui était la partie que représentait Adam le pécheur. Afin que la partie de Jésus qui est Christ, donc Dieu, puisse grandir en lui et que la partie d'Adam par sa mère diminue jusqu'à la totale disparition. Et cette disparition s'effectuera par la croix, c'est-à-dire la mort du corps de péché, le corps parfait et saint par la résurrection, ce corps parfait de Jésus qui devient saint par la résurrection et qui glorifie le corps de Dieu. En détruisant ce corps du péché, Jésus détruit le péché du monde qu'il a porté non par sa désobéissance, mais par sa mère qui représentait le péché d'Adam que l'homme portait et qui subsistait dans l'homme. Au fur et en mesure de la personnalité de Dieu, Christ s'affirme en Jésus. La partie d'Adam par sa mère s'effaçait. D'ailleurs, nous retrouvons ce même ordre qui a été donné à Adam avant qu'il ne tombe dans le péché. Prenons Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais malheureusement, le premier Adam n'a pas cultivé cette personnalité de Dieu saint en lui. Il a préféré, par sa désobéissance, la culture de la personnalité de Satan, la personnalité qui a fait de lui un homme mortel. La personnalité de Dieu qui est composée de sa parole et de son esprit devait conduire à la destruction de la partie humaine d'Adam que Jésus portait par sa mère. Destruction par la mort à la croix. Jésus devait garder la personnalité de son Père tout au long de son séjour sur cette terre des hommes mortels. Par ce rejet de l'autre personnalité d'Adam par sa mère, il est resté fidèle et obéissant à son Père, Christ. Cela lui a donné le gain de la gloire. C'est pour cela que Paul aux Philippiens nous dit, prenons Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. En recevant un corps de gloire de son Père par la résurrection, Jésus nous a montré l'exemple et le modèle à suivre en disant, dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez dans ce passage, le Seigneur Jésus dit, « Pour celui qui veut le suivre, il doit renoncer à la personnalité que nous portons en nous, qui est celle d'Adam, et porter sa croix. » Ce qui veut dire le grand combat qu'il faut mener, car ce n'est pas facile de s'attacher à la personnalité de Dieu par Christ et s'éloigner du mal. Qu'il renonce à lui-même, ce lui-même, c'est cet homme d'Adam que nous portons en nous, en tant que ses descendants par Seth. Jésus nous a montré aussi la cérémonie de baptême qui symbolise la destruction du corps, la partie pécheresse d'Adam pour se revêtir d'un autre corps de Dieu par Jésus. Cette cérémonie fait de l'homme pécheur par son père Adam un enfant adoptif de Dieu par Jésus-Christ. Marc 1, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez, frères et sœurs, amis en Christ, Jésus n'est pas né Jésus-Christ, il est né Jésus. Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, Jésus cultivait Christ et le gardait. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, après le baptême, Jésus est devenu Jésus-Christ, habillé de la parole et de l'esprit de son Père. Devenu Dieu, il va affronter Satan, le nouveau roi du monde. Marc 1, verset 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Mais cette fois-ci, Satan s'est trompé d'Adam, car ce n'est pas le premier Adam qu'il avait en face de lui, mais le deuxième Adam qui porte la personnalité de Dieu, son Père. Si Jésus n'avait pas cultivé en lui la personnalité de son Père, il aurait cédé à la tentation de Satan. Mais comme Jésus était devenu Dieu, par son Christ, il va dire à Satan. Prenons Luc 4, verset 12. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ce n'est pas à un homme du monde que Satan avait affaire, mais à Dieu. Car Jésus était Dieu. Il était devenu le corps de Dieu, où sa personnalité habitait. Cette histoire nous montre comment Jésus a porté le péché du monde et comment il a détruit ce péché. Donc Dieu, par Jésus-Christ, nous invite à être ses imitateurs à l'exemple de Jésus-Christ, pour que notre filiation qui a été perdue par Adam soit rétablie en Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, c'est pour cela que Jésus nous dit, reprenons Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 6, 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus-Christ est médiateur en tant que Christ, entre Dieu et l'homme, et en tant que souverain sacrificateur, le représentant de l'homme devant Dieu par sa mère. Par son exemple, et si nous nous attachons à lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous recevrons aussi cette gloire que Jésus a reçue par la résurrection, et cela au dernier jour. C'est-à-dire un corps spirituel, à l'exemple de celui que Jésus a reçu. Jean 17, versets 21 à 24. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Par le baptême, le croyant chrétien prend l'engagement de cultiver la personnalité de Dieu et surtout de bien garder cette personnalité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort de ce corps physique, le corps de la personnalité d'Adam. C'est vrai que par le baptême, nous sommes déclarés enfants de Dieu par la foi, mais ce n'est que la naissance. L'enfant doit grandir, il est encore au lait. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pour cela, il reste le grand travail de la culture de la personnalité de Dieu, pour recevoir dans tout notre corps cette personnalité. Pour le croyant chrétien par le baptême, c'est le commencement de l'éloignement de cette personnalité d'Adam pour l'affirmation de la personnalité de Dieu dans son corps. Le baptême n'est pas une fin, mais un commencement. C'est pour cela, dans ce passage de Marc 16, versets 15 à 16, il est dit « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il est dit, « Celui qui a cru à la parole sera baptisé et sera sauvé. » Il n'est pas dit, « Celui qui a cru sera baptisé et qu'il est sauvé. » Non, il n'est pas sauvé, il sera sauvé. Tout simplement pour dire qu'il doit commencer à cultiver la personnalité de Dieu et s'il garde cela, alors il est sauvé. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Même dans ces passages, il est bien dit dans le verset 16, « Vous serez saints car je suis saint. » On n'est pas encore saint, mais nous devons cultiver la personnalité sainte de Dieu. Apocalypse 3, verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus nous dit bien de garder cette personnalité sainte de Dieu que nous avons reçue, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cela nous donnera à la fin, comme Jésus-Christ, le corps de gloire qui est la couronne. Paul, l'apôtre, nous confirme cela. Il nous exhorte en nous disant d'être son imitateur, car lui, Paul, a vraiment cultivé en lui la personnalité de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Paul était l'imitateur de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et toutes les ordonnances pour la culture de la personnalité de Dieu sont consignées dans la loi royale donnée par Jésus-Christ, en tant que médiateur et souverain sacrificateur. C'est pour cela qu'il est dit dans Jacques 2, 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Il y a des passages qui sont cette croix que le croyant chrétien doit se charger dans les Écritures saintes qui se trouvent dans la Nouvelle Alliance. Ces choses ne sont pas des rites et traditions juives. Ceux qui croient que ces rites et traditions de la loi de Moïse peuvent donner le corps de gloire, en vérité se trompent. Ils ne connaissent vraiment pas le Dieu, Jésus-Christ, qu'ils adorent. Jean 4, versets 21 à 24. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand Jésus-Christ parle que le salut est des Juifs, c'est parce que lui, Jésus, par sa mère, il était juif. Tu as entendu, ce n'est pas dans les montagnes, comme faisaient les serviteurs de Dieu Baal. Ce n'est pas en Jérusalem, dans le temple aujourd'hui, appelé les églises. Les maisons considérées maisons de Dieu, par les souverains sacrificateurs. Aujourd'hui, par les pasteurs, par les prêtres, etc. Mais c'est dans le corps que toutes ces choses se passent. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Actes 17, versets 24 à 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vivre la personnalité de Dieu, c'est tout simplement mettre en pratique la parole de Dieu. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le !» Il n'est pas dit d'écouter Moïse. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Matthieu 15, versets 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Le culte pour cultiver et garder la personnalité de Dieu, c'est le rejet du mal. C'est de faire le bien en s'attachant à Dieu par Jésus-Christ comme modèle. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Éphésiens 4, versets 20 à 32. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 5, versets 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Balial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ces quelques passages peuvent nous montrer comment rendre un culte agréable à Dieu. C'est ce culte qui permet aux croyants chrétiens de cultiver et garder la personnalité de Dieu par Jésus-Christ. C'est là le combat qui est le nôtre en tant que croyants chrétiens. Le reste, c'est-à-dire combattre Satan, n'est pas notre combat. Ce combat est réservé à Dieu. Dieu nous demande de fuir Satan, c'est-à-dire de ne pas s'approcher de lui. Il est le roi du mal. Si Dieu nous demande de fuir Satan, Dieu ne nous demande pas d'aller affronter Satan, mais de nous éloigner de ses offres, la convoitise, les envies. Les offres de Satan conduisent le croyant à tomber dans son piège. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ces quatre passages sont la feuille de route pour le croyant chrétien. Toujours joyeux, prier sans cesse, c'est-à-dire vivre la parole. Bénir le Seigneur Dieu pour ce qui nous arrive, car nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu en permettant cette chose. Ne pas éteindre le feu de l'esprit, car suivre les pensées du monde, c'est abandonner la lumière de Dieu et plonger dans l'obscurité. Beaucoup ont perdu la vérité de Jésus-Christ pour les rites et les traditions prises dans la loi de Moïse. Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Ils ont quitté la lumière du soleil pour se réjouir dans la lumière de la lune. Alors que la lune, c'est la nuit, et la nuit, c'est les ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière, car Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 9. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, sœurs et amis en Christ, cultivons cette personnalité de Dieu en nous par Jésus-Christ. Il faut faire mourir le corps corruptible d'Adam, c'est-à-dire ce qui est à nous, pour céder la place à un corps incorruptible de Christ. C'est par le renoncement de la mort de ce corps de péché que nous recevrons le corps saint et parfait pour la gloire de Dieu. Hébreux 10, versets 1 à 7. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si on croit que les ordonnances, c'est-à-dire les rites et traditions de la loi de Moïse, peuvent nous rendre parfaits et effacer le vieil homme qui est en nous, frères et sœurs en Christ, ceux qui pensent cela se trompent. Car à quoi sert alors la venue du Christ en prenant le corps de Jésus? Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ceux qui croient trouver dans ces rites et traditions le salut, excusez, ils fabulent. Tout simplement, ce sont des antéchrists. Voyons ensemble cet ordre de choses. Revoyons Jean 17, verset 21. Et cette fois, nous irons jusqu'au verset 26. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il faut le dire encore une fois, il n'y a pas de place pour les rites et traditions, c'est-à-dire les ordonnances de la loi de Moïse. Imitez Dieu, car Dieu est le premier ouvrier. Alors travaillez par vos mains. 2 Timothée 2, versets 15 et 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Voilà, frères et sœurs, amis en Christ, pour cet enseignement sur Jésus, le Fils de Dieu, en espérant que vous tous, vous pouvez y ajouter Amen. Gloire à Dieu.